RCF.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Heureuse de vous retrouver après une semaine où ma voix était partie bien loin d'ici. Alors elle est de retour, même si ce n'est pas encore tout à fait ça, mais on progresse chaque jour. De votre côté, j'espère que tout va bien, que vous êtes d'humeur dansante. Oui, dansante. D'ailleurs, aimez-vous danser ? Tout le monde danse. On a tout le temps dansé, partout dans le monde, dans toutes les civilisations. Des pas savants comme des trémoussements. À la fin de cette émission, le philosophe Alexandre Lacroix nous parlera de sa fascination pour la danse. Il a eu pendant plusieurs mois ses entrées au Palais Garnier, à l'Opéra de Paris, et vient d'en tirer une philosophie du corps en mouvement. Un essai passionnant qui parle de danse, forcément, de travail, d'assesse, de création artistique, de notre rapport au corps, mais aussi de l'instant présent. Un entretien à écouter, même quand on ne sait pas danser. Avant ça, nous participerons au débat sur les vitraux de Notre-Dame de Paris. Faut-il, oui ou non, faire un geste contemporain ? Et puis dans Effervescence, comme chaque semaine, les chroniqueurs ont fait moisson de coups de cœur culturels. Éric Payet, du Jour du Seigneur, et Nicolas Tocher ne sont pas avec nous, mais ils nous ont chacun enregistré une petite correspondance, l'un sur David Bowie et l'autre sur un très inquiétant film, Le Monde d'après. Donc, ça, c'était pour les absents. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Côté montagne, il y a Guillaume Goubert, quelque part dans les Alpes. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Guillaume, vous êtes l'ancien directeur de Lacroix. Avant d'arriver dans les sommets alpins, vous êtes passé par Troyes, une ville qui gagne à être connue pour sa cité du vitrail, mais aussi son musée des beaux-arts. Et puis vous avez lu un roman graphique étonnant consacré au peintre britannique Francis Bacon. Côté mer, il y a Françoise Morel, directrice des radios RCF de Bretagne. Françoise, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Vannes. Cette semaine, vous nous ferez planer avec le 10e album de l'artiste Carlos Núñez, une sorte de croisière musicale. Et puis vous nous offrirez une petite déambulation dans les cimetières bretons grâce au travail de l'écrivain Bernard Rioux et du photographe Jean-Claude Mel. Voilà. Au bord de la Grande Bleue, comme en haut des sommets, chacun est à sa place. Effervescence peut commencer.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Pourquoi une jeune femme décide-t-elle un jour de s'engager dans une association qui fait des maraudes dans Paris ? Qu'est-ce que ça veut dire de distribuer la nuit des bols de soupe instantanée et des verres en carton remplis de café tiède ? Qu'est-ce qu'on découvre quand on passe une nuit par semaine à aller de SDF en SDF pour tenter de créer du lien social ? Et ce lien social, est-ce qu'il existe vraiment ? Dans la ville est le premier roman d'Élodie Fiaban. Dans une langue sans fioritures, avec des expressions qui font mouche, elle nous raconte ses missions aux marges de nos quartiers. Ses tournées sont une série de rencontres et pour nous une série de portraits de ces hommes et parfois de ces femmes qui vivent dans les anfractuosités de nos villes. Ils ne sont pas sans abri. Ils ont une adresse bien à eux, sur une bouche de métro, entre deux immeubles ou dans un square derrière un taillis. Une autre façon d'habiter la ville quand on leur refuse un logement. Dans la ville est un récit sans illusion sur cette charité bien ordonnée, sorte de cautère sur la jambe de bois qu'est la misère sociale. Cette tournée raconte la ville la nuit, une ville bien différente du jour, où ceux qui dorment ne doivent pas être réveillés, mais où l'on redoute toujours qu'ils se soient endormis définitivement. Mais ce livre est aussi en creux un portrait de ceux qui s'engagent pour aller vers ces personnes à la rue. Des gens qui se cherchent, qui cherchent un sens à leur vie, un sens à tout ce désordre, à toutes ces injustices. Ils se cherchent et se trouvent peut-être dans ces maraudes du mercredi soir. Finalement, comme le dit l'un de ces bénévoles, peut-être que le lien social, c'est d'abord pour nous. Alors pour un autre regard sur ces maraudes, il faut lire Dans la ville, un livre sans illusion et qui dépoussière notre relation aux plus pauvres. Dans la ville d'Élodie Fiaban est publié chez Flammarion.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Ces vitraux ont survécu, bien sûr, à l'incendie. Donc, ce que l'incendie n'a pas détruit, Emmanuel Macron veut le détruire, c'est quand même un petit peu étonnant. Alors, on va nous dire, mais non, il ne va pas détruire ces vitraux, il va les transporter dans le musée de l'œuvre qu'il va créer. Alors ça, c'est une très bonne décision qu'il faut saluer. La décision de créer un musée de l'œuvre dans l'Hôtel Dieu, c'est formidable, tout le monde l'attendait. Penser qu'on va exposer ces six grandes baies de vitraux dans le musée de l'œuvre de Notre-Dame, c'est déjà le tuer en partie, ce musée. Parce que ces vitraux n'ont d'intérêt qu'architecturalement parlant, in situ. ce sont des vitraux décoratifs qui n'ont pas d'intérêt en eux, en eux-mêmes si on les sort de la cathédrale. Et en plus, ils vont prendre énormément de place dans le musée, ce qui empêchera d'exposer des vraies œuvres. Donc tout ça est une très mauvaise idée. Maintenant, Emmanuel Macron veut poser sa marque sur Notre-Dame. Très bien, pourquoi pas. N'oublions pas que la marque du XXIe siècle, c'est quand même l'incendie. Un incendie pour lequel les prédécesseurs d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même portent une certaine responsabilité pour ne pas avoir donné les moyens nécessaires à la cathédrale et pour ne pas avoir donné les moyens nécessaires de protection contre le feu et de surveillance du feu à Notre-Dame. Mais peu importe, en tout cas, marquer son passage, c'est peut-être rester un petit peu modeste.
Le journaliste et historien de l'art Didier Rickner au micro de Pauline de Torsiac sur RCF. Il est le fondateur du site La Tribune de l'Art. C'est lui qui a lancé la pétition contre l'installation de 6 vitraux contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une pétition qui a recueilli 130 000 signatures en un peu plus d'un mois. Elle a été remise à l'Élysée jeudi dernier. Une tribune, on l'a comprise, qui répond à la déclaration du 8 décembre dernier du président de la République qui avait officialisé un tel projet de création de vitraux contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, Françoise Morel, comment est-ce qu'on explique ce point de fixation sur la création de vitraux contemporains? Pourquoi ça gratte autant?
Bah écoutez, j'en sais rien, parce que moi personnellement, je trouve cette idée assez géniale de vouloir mettre des vitraux contemporains à Notre-Dame. Faut quand même préciser que le projet, ce sont 6 vitraux sur plus d'une centaine de vitraux que possède la cathédrale. Certes, ce sont des vitraux qui ont été heureusement épargnés par le feu, mais faut peut-être pas oublier plusieurs choses en fait. C'est en effet une décision ou un projet porté par Emmanuel Macron, mais pas tout seul. C'est aussi un projet porté par Monseigneur Laurent Ulrich, qui est évêque de Paris, qui s'est exprimé lui aussi par rapport à ce projet. Il souhaite que les vitraux soient témoins de l'incendie. On en parlait à l'instant, cet événement du 21e siècle, voilà, la destruction et surtout la résurrection quelque part de la cathédrale. Donc je pense que c'est important de rappeler que ce sont à la fois le président de la République mais aussi quelque part l'église de France qui porte ce projet. Bon, après moi personnellement, en plus je suis pas une grande fan du travail de Viollet-le-Duc, donc je me battrai pas obligatoirement pour défendre le maintien des vitraux dans la cathédrale. Et puis je pense qu'il faut pas oublier que nos cathédrales elles sont témoins de leur temps, c'est-à-dire elles ont été complétées, elles ont été modifiées, elles ont été ajoutées, elles ont reçu et accueilli au fur et à mesure des siècles beaucoup de choses qui n'étaient pas obligatoirement l'expression du temps d'avant. Donc je pense que là, faut pas qu'on se focalise, en effet, qu'on se fixe sur le vouloir absolument conserver les vitraux d'origine parce que ce sont des vitraux, parce que c'est Viollet-le-Duc, ils trouveront peut-être ces vitraux leur place ailleurs, dans un autre endroit, dans lesquels ces vitraux s'exprimeront et exprimeront ce qu'ils portent d'une autre façon. Il y a peut-être une histoire d'interprétation aussi dans tout ça. Faut pas oublier que la France a signé en 62 la charte de Venise qui fixe la déontologie des restaurations. Alors on reste peut-être à cheval sur cette charte qui dit qu'il faut pas retirer une œuvre d'art pour la remplacer par une autre. Mais ça, bon, voilà, il y a rien, je dirais, de réglementaire dans cette histoire. L'État fait bien ce qu'il veut. Emmanuel Macron fera bien ce qu'il veut. Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, loin de là, parce qu'on a quand même, chez nous, en France, et je vous parlerai aussi en Bretagne, des exemples qui ont fait grincer des dents quand même à l'époque, et qui sont quand même des merveilleux résultats. Je pense aux vitraux de Soulages.
On va y revenir, ouais. Françoise. J'aurais quand même demander son avis à Guillaume Goubert. Guillaume, c'est une querelle d'experts ou ça répond à des questionnements qui traversent la société française?
Bah, la question du patrimoine en France est toujours une question extrêmement sensible. On le voit bien avec le succès des Journées du patrimoine. Il y a un véritable attachement à tout cet héritage du passé dont on veut prendre soin. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Ensuite, moi, je pense que les cathédrales en particulier, c'est vraiment le produit, c'est l'histoire des siècles qui se présente devant nous avec des modifications qui sont intervenues à toutes sortes d'époques, des mélanges de styles. Et c'est ça que je trouve magnifique. Donc, après un événement aussi dramatique que cet incendie, vouloir garder dans le bâtiment une trace de cet événement, et je trouve que Didier Rickner exagère un peu quand il dit que la trace de cet événement, c'est l'incendie lui-même. Non, ce qu'il y a, c'est que justement, on le surmonte, cet incendie, et donc garder le souvenir d'une certaine manière, je trouve que c'est une belle chose. Alors ensuite, on peut discuter sur les modalités, où est-ce qu'il faut mettre ces vitraux, est-ce qu'il faut les mettre à tel ou tel endroit, est-ce que l'œuvre de Viollet-le-Duc est intouchable, ce qui est le point de vue de de beaucoup d'historiens d'art. Moi, personnellement, ça me fait un petit peu rire, pour dire les choses franchement, parce que Viollet-le-Duc a pris énormément de liberté dans son travail.
Ah,
et il a inventé une sorte de style bien à lui et qui, de fait, est vraiment intéressant. Mais il n'a pas été lui-même extrêmement respectueux de l'histoire du monument, la flèche qu'il a créée sur le toit, qui est à l'origine un petit peu, pour une part, de la catastrophe de l'incendie, puisque la flèche s'est effondrée. C'est vraiment une création complète de Viollet-le-Duc. Donc voilà, il faut aussi savoir. Alors, est-ce qu'il faut en faire six, est-ce qu'il faut les faire à cet endroit-là? Ensuite, on peut discuter. Je trouve que la discussion est vraiment intéressante.
Guillaume Goubert, Françoise l'a dit, ce projet, il est soutenu par l'Église catholique, par le diocèse de Paris. Et on peut peut-être le rappeler, l'Église catholique a l'habitude de travailler avec les artistes contemporains dans tous les domaines de la création.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être pas autant que dans les siècles passés, mais malgré tout, le fil ne s'est jamais rompu. On le doit en particulier à deux dominicains, le père Couturier et le père Régamet, qui dans les années 50 ont fait un travail assez formidable, y compris dans le domaine des vitraux, pour promouvoir un art sacré contemporain, où on se poserait pas trop la question de savoir si les artistes sont des fidèles de l'Église ou des croyants ou non, qui a permis de faire naître des œuvres absolument magnifiques. Et cela continue aujourd'hui en matière d'architecture, en matière de mobilier liturgique. Les commandes de vitraux, souvent, ça a été plutôt du côté de l'État, parce que, les grandes commandes de vitraux de la période récente, parce qu'il s'agit de monuments historiques, donc c'est l'État qui est décisionnaire. Et donc, dans les années 80, il y a eu toute une série de commandes de vitraux très très marquante pour un certain nombre d'édifices religieux en France auprès de très grands artistes.
Oui, il y a quelques semaines dans cette émission Effervescence, quand on avait parlé de la lumière, on avait évoqué le travail de Fabienne Verdier et des vitraux de l'église de Nogent-sur-Seine. Françoise Morel, vous commenciez à évoquer les vitraux de Soulages à Conques, et puis je crois qu'aussi la Bretagne a beaucoup de chance en la matière.
Mais oui, la Bretagne a beaucoup de chance. Moi, en préparant ce sujet, j'ai fouillé un petit peu. Bon, tout de suite, me sont venus à l'idée les vitraux de Jean Bazaine, qui était un croyant, qu'il a réalisé dans la chapelle gothique de la Madeleine à Pinmar. Ce sont des vitraux réalisés en 1980 qui sont juste magnifiques de luminosité, de couleur, de mouvement, de dynamisme. Quand vous voyez la grande verrière et que vous voyez toutes ces lames rouges flamboyantes qui montent vers le haut, quand la chapelle est éclairée à l'intérieur et qu'il fait nuit dehors, mais c'est juste époustouflant. Je dirais qu'un incroyant ait pu réaliser ça. On se dit que l'esprit souffle partout, quoi. C'est clair. Et puis moi, j'ai trouvé des vitraux aussi qui sont magnifiques, qui me touchent énormément. Ce sont ceux réalisés à la chapelle de Perguet à Bénodet, sur une église romane du XIe siècle, réalisée par le dominicain sud-coréen le père Kim Enjung. C'est juste très très beau, ça date des années 2000, je vous invite vraiment à aller voir à quoi ça ressemble. Les couleurs sont diluées d'une grande délicatesse, beaucoup de pureté, de limpidité. Et je dirais là que ce soit les vitraux de Jean Bazaine ou les vitraux de Kim Enjung, excusez-moi, je vais parler un peu vulgairement, mais les vitraux font le job par rapport à ce qu'on attend d'eux dans un édifice religieux. Donc voilà, pourquoi pas.
Guillaume Goubert, je l'ai évoqué en début d'émission, vous êtes passé il y a quelque temps à la Cité du Vitrail à Troyes. Est-ce que cette visite donne un éclairage à ce débat ?
Ah oui, tout à fait, parce que d'abord c'est vraiment une belle réalisation qui a ouvert l'an dernier, c'est récent, et il y a vraiment plusieurs salles successives qui permettent vraiment de comprendre comment le vitrail a évolué au cours des siècles, l'évolution des techniques, etc. Et il y a une collection de vitraux, y compris vitraux contemporains. Il y a deux exemples que j'ai envie de citer ce matin. C'est d'une part, c'est qu'il y a les anciens vitraux de l'abbatiale de Conques avant le travail de Soulages, qui étaient des vitraux qui ont été faits dans les années 40, entre 40 et 50, par un verrier plutôt art déco qui s'appelle Francis Figot. Et donc, c'est très intéressant de voir les anciens vitraux par rapport à ce qu'on voit maintenant réalisé par Soulages. Bon, voilà, ça prouve deux choses. C'est d'une part qu'effectivement, il y a des vitraux qui vieillissent mieux que d'autres. Ceux de Francis Chigo, je trouve, n'ont pas très bien vieilli. En même temps, ça prouve que les vitraux peuvent être conservés et peuvent être réutilisés d'une manière ou d'une autre. Les vitraux de Francis Chigo ont été remis dans d'autres bâtiments de la région et donc ils ne sont pas perdus. Et l'autre exemple que je voudrais citer, c'est un vitrail qui avait été commandé pour Notre-Dame de Paris, justement, dans les années 50, et qui a été refusé et qui est exposé dans la collection. Et effectivement, quand on le voit, on se dit, bon, c'est pas plus mal qu'il ait été refusé. C'est tout le risque, mais c'est un très beau risque que de commander des œuvres à des artistes contemporains.
Et quelle garantie on a que le mauvais goût ne soit pas au rendez-vous ?
Aucune.
Aucune.
Aucune. Je veux dire, non, mauvais goût, le terme est trop fort, mais je veux dire, bon, il y a les artistes à qui on s'adresse pour qu'ils fassent des propositions. Ils ont une œuvre, ils ont des références, si je puis dire. Donc, je veux dire, ça limite les risques, mais il y a toujours le risque que l'artiste n'est pas bien compris, n'est pas bien réussi, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant. Il y a un exemple contemporain qui est assez connu. Moi, je l'ai pas vu moi-même, mais il paraît que c'est un petit peu un problème. C'est la cathédrale de Nevers où on a commandé des vitraux à 5 artistes et leur cohabitation est pas évidente. Certains ont mieux réussi que d'autres, etc. Non, c'est une prise de risque, une commande d'art contemporain. Mais moi, je trouve que c'est bien ça qui fait l'intérêt de la chose. Sinon, on reste dans un monde qui est complètement figé. Et encore une fois, les vitraux. L'avantage, c'est qu'ils peuvent être démontés, ils peuvent être déplacés. Donc, je veux dire, il n'y a rien d'irréversible, par exemple, dans ce qui est envisagé pour Notre-Dame de Paris. Et les verrières de Viollet-le-Duc, qui sont plutôt décoratives, sont très belles, hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Si jamais c'est pas complètement réussi, on pourra y revenir plus tard et remettre les œuvres de Viollet-le-Duc.
Voilà. Rien d'éternel. Et puis c'est aussi montrer que cette cathédrale n'est pas uniquement un lieu de patrimoine, c'est aussi un lieu vivant. Alors pour terminer cette page sur Notre-Dame de Paris, je vous propose d'écouter quelques notes de la maîtrise de Notre-Dame. C'est un extrait d'un album sorti en 2020, Notre-Dame d'émotion, au Magnum Mysterium. La maîtrise de Notre-Dame, que vous pouvez entendre régulièrement en ce moment à l'église Saint-Eustache à Paris et qui se produira le 13 mars prochain à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand pour écouter la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Guillaume Goubert, c'est un bien drôle d'objet littéraire que vous nous proposez dans cette émission, une sorte de roman graphique consacré au peintre britannique Francis Bacon.
Oui, c'est pas un beau livre au sens le beau livre qu'on met sur sa table basse. C'est pas non plus une bande dessinée à proprement parler parce qu'il y a un texte et des illustrations. Mais c'est vraiment une réussite étonnante. Ça a été fait par un écrivain qui s'appelle Frank Maubert, qui est romancier, essayiste, qui a écrit sur Modigliani et sur Bacon, qu'il a connu personnellement, auquel il a consacré plusieurs livres, avec des illustrations de Stéphane Manel, qui est vraiment un illustrateur très impressionnant. Et l'exploit de ce livre, c'est de faire un livre sur un peintre sans reproduire une seule de ses œuvres, tout en réussissant vraiment à les évoquer avec une force tout à fait remarquable.
Vous nous rappelez la particularité de Francis Bacon ?
Alors Francis Bacon, c'est un homme c'est un Anglais, mais qui est né à Dublin, en 1909, il est mort à Madrid en 1992. C'est un des plus grands peintres du XXe siècle, en tout cas de la seconde moitié, il y a vraiment aucun doute. Un peintre figuratif, on va dire, plutôt que en tout cas pas un peintre abstrait. Voilà, qui a une manière très très particulière de représenter le corps humain, l'humanité, une peinture qui est assez très charnelle, où il est beaucoup question de viande, pour dire les choses un peu brutalement, une peinture qui peut faire un petit peu peur. En même temps, Bacon était aussi un très très grand coloriste. Il y a en ce moment à Paris une magnifique rétrospective sur Marc Rothko, je veux dire, qui lui est un peintre pas du tout figuratif, mais qui travaillait énormément sur les couleurs. Et chez Bacon, il y a un travail sur les couleurs dans une approche plus figurative qui est très impressionnant aussi. Et dans les deux cas, c'est des peintres, on se demande comment ils faisaient pour obtenir ce qu'ils faisaient. Alors, il y a une anecdote qui me fait rire, c'est que il y a une série de tableaux très célèbres de Bacon qui est une reprise d'un portrait du pape Innocent X de Velázquez. Bacon, c'est une citation qui est dans le livre, dit « Je veux peindre comme Velázquez, mais avec la texture d'une peau d'hippopotame ». Bon, ça témoigne du côté un peu étrange de cette peinture et aussi de l'humour de Francis Bacon. Et une des choses que je retiens le plus de ce livre, c'est que la peinture de Bacon donne une impression assez maléfique. Et en lisant ce livre où Franck Maubert raconte ses échanges avec le peintre, ce qui ressort, c'est un homme d'une profonde gentillesse, sans aucune vanité, très drôle, avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est ce qui m'a le plus touché dans ce livre par rapport à l'image qu'on a de Bacon. C'est de nous faire découvrir un homme qui était profondément gentil.
Un mot peut-être sur les illustrations, parce qu'il y a des textes et il y a des dessins dans ce livre. Puisque ce ne sont pas les œuvres, ça raconte quoi ces dessins ?
Ben les dessins, c'est à la fois une manière de représenter Bacon dans des moments de sa vie, avec un trait qui est très précis, mais qui n'est pas un trait dur du tout. Et puis de travailler dans des registres de couleurs, et puis dans ces manières de flou que pouvait utiliser Bacon pour évoquer son art pictural, mais avec beaucoup de respect. Sans aucune, là aussi, il n'y a pas une volonté de se confronter ou de se hisser à la hauteur d'eux. Il fait un moi j'étais vraiment très très impressionné par ce travail d'illustration, parce que je me répète, mais faire un livre sur un peintre sans reproduire une seule de ses œuvres, c'est vraiment une performance incroyable.
Bacon, éclat d'une vie de Franck Maubert, c'est publié aux éditions Segers. Françoise Morel, forcément, cette musique, on se dirige vers l'ouest et vers chez vous, c'est un extrait, c'est l'ouverture du 10e album de Carlos Núñez.
Mais oui, Stéphanie, moi j'ai eu un coup de cœur pour cet album de Carlos Núñez, cet album qui s'appelle Celtic Sea, qui vient de sortir chez un tout nouveau label breton qui s'appelle Art Folk. Alors Carlos Núñez, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des plus grands défenseurs de la musique celtique, le virtuose de la gaïta et de la flûte. Alors cet album se peut surprendre puisqu'il est né d'une collaboration entre Carlos Núñez et la Brittany Ferry, la compagnie maritime fondée et encore contrôlée par des agriculteurs bretons. Alors je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit waouh, ça sent le truc super commercial. Et ben finalement non, parce que cet album est vraiment très très beau. Donc Carlos Núñez s'est inspiré de ses voyages sur la compagnie pour créer ce disque qui est encore un hommage aux régions desservies par la fameuse Brittany Ferry. Et dans chaque morceau, eh bien, il évoque chacune des régions celtes de l'arc atlantique, de la Bretagne à la Galice, son pays d'origine, en passant par l'Irlande. Alors, cet album n'est pas une suite de titres sur un CD, c'est vraiment une œuvre, un voyage, avec des escales toutes plus belles les unes que les autres. Il y a déjà le départ avec un morceau qui s'appelle Mare Britannicum, un titre qui fait référence au nom médiéval de ce qu'on appelle la mer celtique.
C'est ce qu'on vient d'entendre.
Exactement. Ce morceau est d'ailleurs devenu l'hymne de la Brittany. Et puis après ce départ, eh bien, il y a Celtic Sea. C'est une symphonie de 10 grands morceaux qui marquent chacun les grandes étapes du voyage. Au total, donc 40 minutes de traversée musicale aux sonorités de la mer, avec les couleurs propres à la Galique, au Pays Basque, au Léon, à l'Écosse, à la Normandie, à la Cornouaille, des morceaux qui mettent aussi en valeur une multitude d'instruments de musique aux sonorités celtiques, instruments que je pense Carlos Núñez maîtrise quasiment tous. Il y a l'ocarina, il y a le médiéval fiddle, il y a la harpe, la bombarde, le bagpipes ou encore le trikitixa, assez difficile à prononcer, c'est comme un accordéon basque en fait. Et puis, il y a le dernier morceau de cette œuvre qui s'appelle « Diune », comme le réseau des écoles en Bretagne, ce qui veut dire « réveil », comme si Carlos Nunez nous accompagnait à la fin de ce voyage onirique. Alors écoutez, Stéphanie, moi j'aime beaucoup cet album. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'emprunter la Brittany Ferry pour vous déplacer, pour voyager sur notre Atlantique. Mais cet album, c'est ça, comme si on était sur le pont, on reçoit les embruns, la fraîcheur de l'Atlantique. Et tout ça, ça fait du bien, c'est reposant en tout cas. J'aime bien cet album, je vous le recommande.
Et c'était le final de Celtic Six, 10e album de Carlos Nunez.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
On l'a déjà dit dans cette émission, Guillaume Goubert, vous avez fait une visite dans cette belle ville de Troyes. Vous êtes allé à la Cité du Vitrail, mais vous êtes aussi arrêté au Musée des Beaux-Arts de Troyes. Et là encore, c'est l'occasion de souligner l'extrême qualité de ces musées régionaux.
Voilà, alors il s'agit du musée d'art moderne de Troyes, en fait, qui est un des musées de Troyes. Il y a aussi un musée des Beaux-Arts, par ailleurs. Le musée d'art moderne, il est né de la donation en 1976 de près de 2000 œuvres par un couple de Troyes, Pierre et Denise Lévy, des industriels de la bonneterie, comme il se doit à Troyes. C'est le groupe Devanlet qui fabrique Lacoste. Et ce couple c'était de très grands collectionneurs. Et donc le musée qui est situé dans l'ancien palais épiscopal, juste à côté de la cathédrale, a été inauguré en 1982. Il est resté fermé pendant quelques années pour d'importants travaux. Il est en train de rouvrir. Il y a déjà à peu près la moitié de la collection qui est disponible pour les visiteurs. Et au mois d'avril, enfin en tout cas au printemps, l'ensemble du musée va rouvrir. Et c'est moi j'ai découvert une collection absolument magnifique.
Alors qu'est-ce qu'on voit?
Alors on voit, c'est surtout de la peinture, je dirais plutôt post-impressionniste, avec des œuvres de gens comme Derain, comme Valoton, des œuvres magnifiques de Félix Valoton, Édouard Vuillard. Ce qui est souvent intéressant dans ces collections privées, d'origine privée, c'est qu'ils achètent des œuvres qui sont pas forcément complètement typiques. Et par exemple, Vuillard, il a ses deux intérieurs d'usine, alors que Vuillard, on le connaît plutôt pour représenter des intérieurs bourgeois, un peu cossus, avec un petit éclairage, avec des lampes. Et là, c'est deux usines. Dans les deux cas, ce sont des usines. Et c'est des... Voilà. Et il y a vraiment des choses splendides. Il y a de Soutine, Modigliani, il y a des toiles de Destal, de Buffet, de Balthus, et donc aussi des œuvres d'art premier, africain, océanien. Voilà, ça fait vraiment un ensemble de peintures. En plus là, comme ils vont rouvrir, pendant la fermeture, ils ont pris le temps de restaurer un certain nombre de choses. Donc les œuvres sont vraiment dans le meilleur état possible, parfaitement éclairées. C'est un véritable bonheur. Alors c'est dans un registre de peinture relativement délimité. C'est pas du tout une collection qui vise à une quelconque exhaustivité. Ça reflète le goût d'un couple pour une certaine époque de la peinture. Mais cette époque-là est magnifiquement représentée.
Guillaume, on a beaucoup de chance en France, parce que là, vous parlez de ce musée à Troyes, mais partout en France, dans les villes de région, on a des musées de qualité.
Tout à fait. Moi, je trouve que quand on se déplace en France, qu'on arrive dans une ville, si on a un peu de temps, même pas beaucoup, ça vaut toujours, si on est amateur de peinture, amateur d'art, ça vaut toujours la peine d'aller voir le musée, justement, ce qu'on appelle généralement le musée des Beaux-Arts. Il y a vraiment des choses, souvent des choses magnifiques à voir, y compris en art contemporain, parce que ces musées, même s'ils ont des petits budgets, ils essaient quand même d'acheter des œuvres contemporaines. Voilà, et on peut citer beaucoup, beaucoup d'exemples. Bon, il y a des exemples très, très prestigieux, comme le musée de Grenoble, qui est qui fut le premier des musées d'art moderne en France. Il y a le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a une collection d'une richesse impressionnante. Mais vous avez des musées comme ceux de Metz, à Nancy. Et puis, une tendance récente qui est intéressante et qui se reflète d'ailleurs à Troyes, c'est celle de musées constitués à partir de collections d'origine privée, des collectionneurs qui donnent leur collection, qui font des prêts à long terme de leur collection à des musées publics. On peut citer par exemple à Aix-en-Provence la collection Planck, qui est dans une annexe du musée Granet, qui est une collection splendide. Et puis, un événement à signaler qui est à venir, c'est à Toulouse, la réouverture de la collection Bemberg, que personnellement j'ai jamais vue, mais quand on regarde le site internet, ça a l'air absolument incroyable. C'est un industriel d'origine argentine, et ça rouvre au début du mois de février.
Françoise Morel, vous, c'est une balade non pas dans les musées qu'elle vous nous conviez, mais plutôt dans les cimetières bretons.
Mais oui, Stéphanie, ça n'a rien de lugubre. Au contraire, c'est même très, très beau. Je vous propose cette balade à travers un livre que j'ai reçu ici à la radio, qui est magnifique. C'est un beau livre, on peut dire. Ça s'appelle « Cimetières et autres lieux de mémoire en Bretagne ». C'est un beau livre écrit par Bernard Rio et réalisé avec les photographies de Jean-Claude Mel. C'est un livre édité chez nous, chez Ouest France. L'occasion de dire que Ouest France, ce n'est pas que le quotidien de la PQR. C'est aussi une très belle maison d'édition. Alors, l'auteur Bernard Rio, c'est un historien passionné des patrimoines bretons. Jean-Claude Mel, lui, est photographe naturaliste. Donc, autant dire que les photos sont vraiment magnifiques. Et dans ce livre, ils proposent tous les deux une balade très originale dans les cimetières bretons. Alors, on va de cimetières marins à des carrés militaires, des enclos paroissiaux, des abbayes et même des forêts pour découvrir le patrimoine funéraire. Alors, ce sont des tombes où se côtoient des vainqueurs et des vaincus, des mausolées avec vue sur mer, des croix de bois ou de fer en pleine forêt, des tombes anonymes ou de grands personnages qui ont marqué l'histoire de la Bretagne. Alors Bernard Rio nous emmène par exemple au cimetière marin de Saint-Michel-en-Grève. C'est un cimetière dans les Côtes d'Armor, magnifique, face à la mer. Il nous conduit aussi du côté de Saint-Malo avec la tombe de Surcouf, de la tombe aussi des Vendéens massacrés pendant la virée de Galerne. Là, on est à Princquio en Loire-Atlantique, jusqu'à celle de Joseph Locke, par exemple, à Guémené-sur-Scorff. Alors, on découvre aussi dans ce livre, Stéphanie, l'oratoire Notre-Dame des Motards à Porcarreau. Voilà, exactement. C'est chez nous en Morbihan. Tous les ans, le 15 août, il y a le pardon des motards. Donc, les motards viennent très nombreux pour faire bénir leur moto, assister à un week-end de fêtes et de prières. Et donc, il y a l'oratoire avec un vitrail, justement, qui nous rappelle les motos et Notre-Dame des Motards à Porcarreau. Voilà, ce livre nous emmène aussi du côté du cimetière militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale, à la Pornichet. Alors les textes et les photos de son livre sont vraiment très beaux, transformant ces lieux souvent froids et tristes en des lieux de repos et je dirais même de beauté, de création. Et puis ces cimetières, eh bien, ils nous parlent, ces cimetières bretons, ils nous parlent de qui ? Ben, ils nous parlent de l'Ankou. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Ankou. Guillaume, c'est peut-être l'Ankou, c'est la personnalisation de la communauté des morts. Alors l'Ankou est très très représenté chez nous en Bretagne. Je vous recommande le tableau Les Lavandières de la Nuit, vous verrez l'Ankou. Il est représenté un personnage très très spectral, squelettique, et donc il hante les cimetières et les landes bretonnes de la nuit. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de La Légende de la Mort d'Anatole Le Braz, un écrivain breton qui a fait un collectage d'histoires qui se transmettaient oralement sur l'Ankou. Tout ça, ça transpire un peu dans les cimetières bretons. Voilà, ces cimetières nous parlent aussi des grands moments de l'histoire, de notre histoire, de célébrités que l'on honore encore aujourd'hui grâce à ces tombes. Ce livre nous parle aussi du rapport des vivants avec la mort, avec leur mort, avec toujours cet Ankou. Ils nous disent aussi qu'en Bretagne, peut-être Plus qu'ailleurs, les vivants semblent moins ingrats avec les défunts qu'ils visitent tout au long de l'année. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce patrimoine funéraire breton avec ce livre « Cimetières et autres lieux de mémoire en Bretagne », un livre écrit par Bernard Riot. Et puis, bah, je vous donne mon coup de cœur des tombes magnifiques chez nous en Bretagne. C'est celle de François-René Chateaubriand sur cette petite île du Grand Bé qui est fait juste face à Saint-Malo. Quand vous êtes au pied de cette tombe qui ouvre justement sur la mer, bah, c'est juste magnifique. Je ne vais pas vous dire qu'on a envie de mourir, mais quelque part, Chateaubriand est bien là, face à la mer, et sa tombe est vraiment, vraiment magnifique.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far.
Et oui, désormais, le mois de janvier, c'est le mois Bowie. Je vous le rappelle, hein, l'artiste est né le 8 janvier 1947 à Londres et il est mort le 10 janvier 2016 à New York. Et c'est donc l'occasion pour Éric Paillet de lui rendre hommage grâce, entre autres, à un film diffusé actuellement sur Netflix. Bonjour Éric.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Le 8 janvier dernier, la mairie de Paris inaugurait dans le 13e arrondissement une rue David Bowie. Preuve que 8 ans après sa mort, l'artiste fait toujours l'unanimité. Il est et restera l'une des figures les plus importantes de la culture rock. Et dans ce qui force l'admiration, sa capacité à se réinventer, à toujours innover tout au long de ses 50 années de carrière est sans doute ce qui frappe le plus. Pour mieux comprendre cela, la plateforme Netflix vient de mettre en ligne l'ébouriffant documentaire Moonage Daydream du réalisateur Brett Morgan, qui pendant 5 ans a eu le privilège de triturer les archives collectées par Bowie lui-même. Il ne s'agit pas d'un biopic classique, mais d'une œuvre visuelle et sonore. De plus de 2 heures, nous plongeons dans la quête effrénée d'un artiste hors du commun, obsédé par l'idée de renouveler sans cesse son processus créatif. Sans respecter complètement la chronologie, ce documentaire mixe les images, les interviews, les concerts, les pièces de théâtre, les performances artistiques, le tout sur une bande-son extrêmement travaillée par le fidèle producteur de Bowie, Tony Visconti lui-même. Accrochez vos ceintures. Au gré de ce kaléidoscope étourdissant et réjouissant, Bowie se confie sur son besoin de se créer des personnages, notamment Ziggy Stardust, cet extraterrestre star du rock, dont vous venez d'écouter la chanson éponyme. Sur sa technique d'écriture aussi, mêlant au hasard des phrases de différents textes qu'il écrit, et s'émerveillant de voir ce système lui révéler des vérités profondes qu'il avait enfouies. Sa quête de spiritualité, il avoue s'être parfois tourné vers le bouddhisme le mardi et profondément vers Nietzsche le vendredi. Son déménagement pour Los Angeles, la ville qu'il déteste le plus, pour voir comment cela modifie sa création. Et puis plus tard, autre départ, pour l'opposé, la ville de Berlin, où avec le musicien Brian Eno, ils vont mettre au point une manière radicalement différente de composer. Ils créeront notamment ce qui est sans doute les premiers morceaux de l'une des branches de la musique techno, l'ambiante, 30 ans avant le reste du monde. Et lorsque la musique ne suffit pas, il se tourne vers la peinture, la sculpture, le théâtre ou le cinéma. Bowie se cherche autant qu'il joue à nous perdre. Il ne dérogera presque jamais à son obsession, ne jamais exploiter un filon, sans cesse se réinventer. Sa hantise, perdre une journée. Bowie veut vivre intensément. Le documentaire l'évoque. Le 8 janvier 2016, le jour de son 69e anniversaire, il sort un ultime album, Black Star. Dans une chanson particulièrement hypnotique, Lazarus, Lazare, Bowie a ces mots qui semblent en partie répondre aux interrogations évoquées précédemment et parle enfin directement de lui en sortant de ce petit jeu de cache-cache. Regardez par ici, je suis au paradis. J'ai des cicatrices qui ne se voient pas. J'ai une histoire qui ne peut être volée. Tout le monde me connaît maintenant. Bowie décède 2 jours plus tard. Il ne s'agissait pas d'un album anniversaire, mais d'un testament, une lettre d'adieu.
Look up here, I'm in heaven.
I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now.
Moonage Daydream, une expérience totale pour découvrir David Bowie, c'est à voir sur Netflix. Et puis on reste sur Netflix pour le film Le Monde d'après. Et pour cela, on retrouve depuis Metz Nicolas Tochet.
Hello Stéphanie, hello les amis. Oui, un petit coup de cœur de ce début 2024 pour ce Monde d'après nous, qui est en réalité sorti à la toute fin de 2023 sur Netflix. Alors, c'est difficile, peut-être encore plus que d'habitude ici, de ne pas dévoiler d'éléments importants du film. En effet, pendant une bonne partie de ces 2h20, les principaux protagonistes sont laissés dans une sorte de doute. Que se passe-t-il vraiment autour d'eux? Et nous, spectateurs et spectatrices, on est plongés avec eux dans leurs interrogations. Alors je vous raconte juste le début de cette histoire en quelques mots. C'est un couple new-yorkais accompagné de ses deux enfants qui va faire un break dans une maison assez luxueuse de Long Island qu'ils ont dû aller louer sur Airbnb. Et après quelques activités de vacances, ils se rendent compte que le wifi et la télé ne fonctionnent plus, ce qui est un peu embêtant, et notamment pour la fille de la famille qui veut absolument voir le dernier épisode de Friends. Et le même soir, un homme arrive à la maison, accompagné de sa fille, en affirmant que cette maison est bien la leur, et qu'une panne d'électricité importante à New York les oblige à revenir y passer la nuit. Après un moment d'hésitation, les vacanciers acceptent de leur laisser une chambre au sous-sol. Et effectivement, sans Internet, bah, comment vérifier que c'est vraiment les propriétaires légitimes de la maison? Comme je vous le disais, nous sommes à partir de ce moment-là plongés dans les doutes de chacun des personnages. Est-ce que cet homme, joué par Mahershala Ali, est bien le propriétaire de la maison qu'il prétend être, même s'il semble bien en connaître tous les recoins? Est-ce que le couple de vacanciers, interprété par Julia Roberts et Ethan Hawke, ouais, alors c'est un sacré casting, hein, ils sont tous très bons dans le film. Donc ce couple, est-ce qu'il est donc plus méfiant parce que les nouveaux arrivants sont noirs et qu'il y aurait un arrière-fond un peu raciste dans leur pensée? Est-ce que les événements étranges, au-delà de la panne de courant, sont issus de l'imagination de ces personnages ou sont-ils réels? Et du coup, s'ils sont réels, quelle est la cause derrière ces événements? Alors pour pas en dire trop et vous laisser un peu la surprise, je m'arrête là pour l'histoire, mais pour ma part, j'ai vraiment été embarqué. Et le fait que celui qui a écrit et réalisé tout cela est Sam Esmail, le créateur de la série Mr. Robot qui a marqué les esprits dans les années 2010, en fait on n'est pas si surpris. Dans cette série, il était déjà question de doute, de ce qui est réel et de ce qui se passe dans l'esprit des personnages, de réalité et d'illusion, et avec un arrière-fond très technologique. Et derrière tout cela, on a justement dans ce film également des préoccupations bien actuelles, justement de notre dépendance à la technologie, de la méfiance qu'on peut nourrir les uns envers les autres dès qu'il y a une situation un peu complexe, de la fragilité du coup de la société qu'on construit. Alors je ne sais pas si c'est parce que la boîte de production derrière ce film est Higher Ground, hein, qui est la boîte montée par Barack et Michelle Obama, mais finalement, effectivement, il y a un arrière-fond très politique dans tout ce qui fait l'arrière-plan un peu de ce monde après nous. Mais avant tout, c'est un film très efficace sur des relations complexes entre les personnages, avec, comme je le disais, du coup, de très bons acteurs. Et c'est aussi un film assez beau, qui a la réalisation très léchée, hein, on reconnaît la patte de Sam Esmail. Donc c'est vraiment un bel objet télévisuel que du coup, je vous recommande vivement.
Je suis allée sur Internet et je nous ai loué une magnifique maison sur la plage. Je me suis dit qu'en réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses.
Oh, la grande classe. Les enfants ont l'air tellement heureux.
Le wifi fonctionne pas. Prends une batte.
Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans notre maison.
C'est votre maison.
On était sur la route pour rentrer chez nous et quelque chose s'est produit.
Vous voulez rester ici? Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes là.
Il faut qu'on les fasse partir.
Il faut qu'ils croient que tout se passera bien.
Mais tout se passera bien de toute façon.
Le Monde après nous, un film vraiment très efficace à voir sur Netflix avec des images somptueuses et qui pose beaucoup de questions.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Merci pour votre fidélité à Effervescence. Dernière partie de cette émission, je vous propose de rencontrer maintenant l'écrivain et essayiste Alexandre Lacroix. Il est le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. C'est un défenseur de la philo pour tous. Il manie une écriture accessible et généreuse et s'empare de concepts généralement ignorés de la tradition philosophique. Après un livre sur le paysage et un autre sur l'érotisme, voilà qu'il nous offre une réflexion sur la danse. Pour cela, en 2019, il a passé de longs moments à l'Opéra de Paris, à observer les danseurs, à échanger avec eux. Je l'ai rencontré en début de semaine dans un minuscule studio parisien où il a ses habitudes de travail. On l'écoute nous raconter l'opéra.
En fait, j'ai eu la chance effectivement de suivre pendant un peu plus d'un an deux danseurs étoiles, d'entrer à l'Opéra Garnier, de suivre en fait leur quotidien de travail, c'est-à-dire tout ce qui est hors de la scène ou derrière la scène, les cours, il y a des cours quotidiens pour les danseurs, même les danseurs étoiles prennent des cours chaque jour et répètent les positions de base, les figures de base de la danse classique. Et j'ai suivi également les répétitions. Alors j'ai suivi en particulier les répétitions d'un spectacle d'un chorégraphe contemporain suédois de très grande renommée internationale qui s'appelle Matsek, ça c'était une chance. Et ce que je voulais faire, c'est écrire un livre sur la danse, un livre de philosophie, de réflexion, mais un livre qui soit vraiment nourri par l'observation du travail sur le corps, du travail du geste, du travail sur le rythme, du travail aussi de synchronisation ou de relation entre les danseurs. Enfin, toutes ces choses qui sont quand même assez inaccessibles pour... D'abord, l'opéra n'est pas un lieu très accessible en soi, ça a été très long d'avoir les autorisations, mais c'est aussi, il nous est aussi difficile de nous imaginer ce monde-là, je pense, quand on est un néophyte, un débutant, ce qui est mon cas. On a du mal on sent bien qu'il faut une discipline de fer, mais à part ça, comment ça se passe vraiment de répéter un spectacle? Comment les gestes s'améliorent ou les mouvements s'améliorent au fil des répétitions, par exemple? Ça, c'est un peu mystérieux, c'est ce processus que j'avais envie de voir.
On vous sent fasciné par les danseurs, par leur plastique, par leur grâce, mais aussi par leur force de travail et leur ténacité.
Oui, alors j'ai essayé de faire des passerelles entre mon univers et le leur, ou plutôt de comprendre... Moi qui ne suis pas danseur, leur état d'esprit à partir de ce que je connais. Ce que je sais de l'écriture, donc moi j'ai publié une vingtaine de romans et d'essais, j'écris depuis toujours. Ce que je sais de la pratique de l'écriture, qui est dans mon cas une pratique quotidienne, c'est que, comme beaucoup d'art, l'écriture demande une alliance un peu étrange entre discipline et liberté. Si vous avez la liberté, c'est bien, ça va vous donner une force d'expression, ça va vous donner une forme d'originalité, peut-être un style personnel, ça va vous permettre de vous libérer des autorités et des classiques. Mais si vous n'avez que la liberté, vous n'arrivez à rien. Il faut adjoindre à cette capacité à être libre, dans son expression, une discipline de fer dans l'écriture. Mais alors, ce qui est passionnant dans le cas de la danse, une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est que... Donc c'est un double bind en fait. Normalement il y a des gens libres, il y a des gens disciplinés, donc là il faut être les deux. Mais dans leur cas, c'est encore plus vrai ou encore plus exacerbé. C'est-à-dire qu'un danseur, s'il arrête pendant deux mois, je veux dire, un écrivain, s'il arrête pendant deux mois, à la rigueur il va se ressourcer. Et quand il reviendra à l'écriture, il sera peut-être un peu meilleur. Un danseur, il n'est plus rien au bout de deux mois. Ses muscles, ses tendons, ses articulations, ce sont des faits. Il ne peut pas, un danseur à haut niveau ne peut pas se permettre de ne pas entraîner son corps pendant deux mois. Donc c'est une discipline vraiment quotidienne. C'est une discipline de fer. Et quand on regarde les danseurs professionnels, on s'aperçoit qu'ils arrivent tous à exécuter les figures. C'est-à-dire que la technique... leur résiste assez peu. Hein, contrairement à une légende, les gens disent « Ah, il y a des blessures. » Oui, il y en a. Mais enfin, quand même, ce qui est impressionnant, c'est leur aisance technique est prodigieuse. Donc, en fait, ça fonctionne très bien du point de vue du corps et ils savent très bien faire ce que le chorégraphe demande. Par contre, le niveau d'expressivité crée de vraies différences entre les danseurs. C'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas tous la même intensité d'émotion. Peut-être que c'est plus difficile pour les jeunes, parce qu'ils ont moins de vécu aussi, quand vous interprétez des rôles de femmes délaissées, d'amants, de princes. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est peut-être plus dur. Mais disons que cette capacité à transmettre l'émotion, ça c'est le pôle de la liberté qui est convoqué. C'est la liberté humaine qui doit être convoquée et embarquée dans le mouvement.
Est-ce que vous faites une différence entre la danse classique et la danse contemporaine? Parce que le ballet que vous avez suivi, Another Place, c'est un ballet contemporain.
Alors, il y a des différences importantes entre la danse classique et la danse contemporaine. Il faut quand même dire qu'on est aujourd'hui dans une tendance au décloisonnement. C'est-à-dire que la troupe de l'Opéra National danse du classique, du néoclassique en fait, on dit, et du contemporain en alternance. Parfois, certains danseurs, dans la même semaine, passent d'une répétition contemporaine et parfois dans la même journée, à un spectacle classique, ce qui mobilise le corps de façon différente. Moi, c'est vrai que je me suis intéressé à un chorégraphe qui a une écriture chorégraphique, donc Matzek, extrêmement originale. Ce qui m'a interpellé dans sa manière de travailler, c'est qu'il utilise son observation directe de gestes du quotidien, des gestes comme, je sais pas, on rajuste ses vêtements, des gestes très prosaïques, hein, parfois se gratter le dos, sauter, faire youpi, lever les bras. Enfin, il utilise des gestes qu'il a comme prélevés dans la vie de tout un chacun, mais il opère sur ces gestes, sur ces mouvements, une stylisation. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il nous amène, il pousse des mouvements que nous connaissons tous à un niveau d'abstraction qui les rend artistiques. Donc ce qui est passionnant, enfin l'une des questions que je me pose dans cet essai, qui est une question philosophique, c'est de comprendre ce qui distingue un geste normal, on va dire, un geste qui n'est pas dansé d'un geste dansé.
Alors justement, comment est-ce qu'on définit la danse ?
Si vous allez à un spectacle, mettons, vous entrez dans un théâtre, dans une ville de province, un peu par hasard, vous ne savez pas à quoi vous assistez, et vous voyez quelqu'un arriver sur la scène et marcher. Cette personne ne danse pas, c'est un comédien. Tiens, ce spectacle, ça pourrait être du théâtre. Et puis cette personne va faire un mouvement, et là, il suffit d'un mouvement du bras, il suffit de très très peu de choses, un pas, et là, vous allez dire, tiens, c'est le geste dansé. Et vous allez repérer que le geste est différent et qu'il est dansé, alors même que vous ne connaissez rien à la danse. C'est-à-dire, prenons la situation où vous ne connaissez rien à la danse, ce n'est pas que vous reconnaissez un entrechat, une arabesque, un grand jeté. En fait, vous ne reconnaissez rien, mais vous voyez que c'est dansé. Pourquoi vous êtes capable de faire la différence ? L'une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que le geste dansé est un geste qui ne se déroule pas dans l'espace, qui n'a pas de but dans l'espace. En fait, les gestes du quotidien ont toujours un but dans l'espace. Je marche vers une porte, j'ouvre la porte, je porte un verre de café à mes lèvres. Vous voyez, j'ai toujours un but spatial et mon corps interagit de manière instrumentale avec les objets qui sont disposés autour de lui. Tout d'un coup, dans la danse, il se passe quelque chose, on s'affranchit du cadre spatial, en tout cas, on ne poursuit pas des buts dans l'espace, le but du geste, c'est le geste lui-même. C'est-à-dire, le geste est effectué pour sa propre beauté, pour sa propre grâce, pour sa propre perfection, pour sa propre force d'expressivité. Et le geste, du coup, se déroule dans le temps. C'est Paul Valéry qui disait que la danse est un ornement du temps, bon, c'est très juste. Ça veut dire que, chez celui qui se met à danser, quelque chose pivote du côté de l'espace vers le côté du temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que l'interaction avec le monde n'est plus du tout monnayée de la même manière. Vous n'avez plus de but dans l'espace, vous n'avez plus qu'à magnifier l'écoulement du présent, et c'est ça que vous poursuivez. Et c'est ça qui fait aussi que pour certaines personnes, d'ailleurs, dont je suis, il est difficile de se mettre à danser. Parce qu'en fait, on est trop soudé au régime spatial, qui est un régime de l'efficacité.
Comment la philosophie peut-elle nous aider à comprendre la danse ?
La philosophie n'est pas très bavarde sur la danse. Il y a peu de textes de philosophes qui parlent directement de la danse. Et je dirais que précisément, l'enjeu pour moi était d'essayer de combler ce manque. Moi, je m'intéresse beaucoup à des objets dans mon travail qui n'ont pas occupé les philosophes, mais qui occupent beaucoup les humains. Par exemple, la danse, c'est un exemple parfait, c'est un invariant culturel, c'est un universel humain. C'est-à-dire qu'on ne connaît aucune société humaine sans danse. On a des vestiges de danse très anciens, sujet à interprétation, mais il est certain qu'on dansait au néolithique. On a 30 000 ans avant Jésus-Christ des premiers instruments de musique. Et donc, il est légitime de penser qu'au son de ces instruments, qui pouvaient être des racloirs en os de renne, par exemple, on dansait. Enfin, c'est légitime parce que toute la littérature ethnographique confirme que dans toutes les cultures, il y a des danses. Et quand je dis que dans toutes les cultures, il y a des danses, ce n'est pas des danses désarticulées, simples, c'est des cultures complexes. Si vous voyez dans des documents vidéo ethnographiques des danses traditionnelles, vous comprenez très vite que les pas sont codifiés, donc il y a des maîtres de danse, donc il y a une transmission. Donc ça, les cultures humaines ont poussé très très loin la danse. Alors, on rencontre tous la danse, je veux dire, même si on ne va pas à l'opéra, on rencontre la danse dans les fêtes, dans les soirées, dans les boîtes de nuit. Donc, les humains dansent, et pourtant, les philosophes s'y sont peu intéressés, peut-être parce qu'ils s'intéressent, ou ils vont puiser leur sujet dans les bibliothèques. Alors ça, pour moi, c'est idéal, c'est-à-dire c'est un terrain de friche. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est un peu un bricolage, c'est-à-dire que j'ai puisé dans des sources dans les neurosciences, j'ai puisé chez Bergson, c'est-à-dire Bergson ne parle jamais de danse directement, mais par contre, il a une pensée où il structure sa pensée autour d'une opposition entre l'instinct et l'intelligence qui est tout à fait éclairante pour parler du mouvement et pour parler de la danse, mais il y avait beaucoup de choses à faire moi-même.
Et quelle leçon de philosophie nous donne la danse ?
La danse, en fait, nous amène dans un royaume auquel la philosophie n'a pas accès. C'est-à-dire qu'elle est une sorte d'école de la sensation pure. Et je dirais même que le mouvement de la philosophie et le mouvement de la danse sont opposés. La philosophie consiste à partir de l'observation, du concret, du singulier, du particulier, pour essayer de remonter vers le concept, c'est-à-dire pour remonter vers l'abstraction et remonter vers la généralité. Et dans ce mouvement, on va dire ascendant, on pourrait dire ascendant, du terrain vers le concept ou du particulier vers le concept, on perd un peu le grain du réel, on perd un peu la sensation, on perd l'instant présent. Le concept est censé avoir une valeur aussi, alors peut-être pas éternelle, mais un peu atemporelle. En fait, le danseur, lui, sa quête est complètement inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, on a une musique qui contient un certain degré d'universalité, des intentions du chorégraphe, des pas de danse classiques qui sont codifiés et qui ont tous un certain degré d'universalité. Mais on part de ça, de cette généralité, et on cherche à pousser très loin dans le particulier, dans la sensation, dans l'instant présent. Le danseur va chercher à vraiment à se tenir sur la fine crête du présent, à être entièrement là dans son geste. Et je dirais que ce sont comme deux quêtes symétriques, celle de la philosophie et celle de la danse. Du coup, je dirais que la danse peut compléter la philosophie. Elle lui apporte ce qu'elle ignore.
Quelques notes de Liszt, la musique d'Another Place, une pièce chorégraphique créée par Mats Eck et dont nous a parlé Alexandre Lacroix. Et je vous redonne le livre d'Alexandre Lacroix. C'est vraiment un essai passionnant, c'est publié chez Alary Éditions. Ça s'appelle « La danse, philosophie du corps en mouvement ». Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. J'espère qu'elle vous aura envie de danser, de lire, de vous balader. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Merci à Guillaume Goubert et Françoise Morel pour leur participation. Merci à Éric Payet et Nicolas Tauché pour leur correspondance. Merci à Alexandre Lacroix pour son accueil et sa confiance. Et merci évidemment à Pierre-Henri Paget pour la réalisation de cette émission. Je ne vous quitte pas sans vous glisser une citation pour la route. Elle est de Nietzsche et je l'ai trouvée dans le livre d'Alexandre Lacroix. Il faut avoir beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Bon week-end à tous !